Donc, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et après quoi, on va lire la lecture pour faire la lecture du jour et aller avec notre explication du texte pour aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine qui débute. Tu en connais déjà les détails. Tu sais, Seigneur, tous les défis qui pourraient se présenter devant nous. Mais pour chacune de ces situations, nous avons cette assurance, Seigneur, que tu as déjà pourvu ce qui est nécessaire. Pour chacun, Seigneur, des combats qui seront peut-être nôtres, nous savons aussi que tu nous donnes non seulement la force, l'endurance, mais déjà tu nous accordes la victoire, parce que tu as remporté la victoire sur toute chose et tu la partages avec nous. Alors merci, Seigneur, de te tenir à nos côtés. Cette semaine, Seigneur, on ne veut pas simplement passer un temps à essayer de s'entretenir les uns les autres, à essayer tout simplement d'avoir un moment agréable, mais que ce soit un temps, Seigneur, profitable aussi pour notre transformation et pour notre croissance. Je prie, Seigneur, que dans la vie de ma sœur, tu déclenches des choses, Seigneur, qui la poussent à un changement et à une transformation. Je prie que dans la vie de mon frère, Seigneur, tu puisses, Seigneur, susciter des occasions de métamorphose dans sa vie, ô Dieu, afin que chacun de nous, lorsque nous arriverons à la fin de la semaine, nous puissions être des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, Seigneur, qui ont été touchés par ta parole, qui ont entendu ta voix et qui ont été transformés par la puissance qu'elle revêt encore aujourd'hui. Alors Seigneur, bénis notre entendement, bénis notre compréhension, bénis ce temps que nous mettons à part pour étudier ta parole, pour méditer et pour chercher ta face. Que ce soit Seigneur un temps profitable pour nous tous, mais un temps Seigneur qui t'est aussi agréable et un temps Seigneur qui portera un fruit éternel à travers le dépôt que tu places en chacun d'entre nous. Donc merci d'être là. Merci de nous bénir. Merci Seigneur pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs qui se joint à moi ce matin. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, le texte de la semaine va être dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 7. C'est un texte, bien sûr, que Paul adresse à son enfant spirituel Timothée. Un jeune homme qu'il a vu grandir, qu'il a amené au ministère et à qui il a confié par moments des charges importantes, notamment comme responsable de l'église d'Éphèse lorsque des changements devaient être apportés à l'église d'Éphèse. L'ouvrier que Paul a jugé approprié d'envoyer, c'était son enfant spirituel, son fils bien-aimé, Timothée. Et face à Timothée, probablement davantage que pour tous les autres collaborateurs qu'il a eus. Il a eu un investissement personnel dans la vie de Timothée et c'est quelque chose qu'on va même aborder aujourd'hui. Alors je lis pour vous dans 2 Timothée 2, du verset 1 au verset 7 et de façon un peu bizarre ou de façon un peu inhabituelle plutôt, aujourd'hui on va étudier le premier et le dernier verset de notre texte et cette pensée du dernier verset reviendra aussi dans l'ensemble des enseignements de cette semaine. Alors 2 Timothée 2, 1 nous dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui-là enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Alors je relis le premier et le dernier verset. Toi donc, mon enfant, Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je reprends une dernière fois. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et le verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le titre que je donnerai à l'enseignement d'aujourd'hui, que vous avez pu voir aussi dans la présentation du vidéo, apprenons, comprenons et marchons. Apprenons, comprenons, marchons. Le premier point, Paul va dire « Toi donc, mon enfant ». Le terme « enfant », c'est le terme grec « technon », T-E-K-N-O-N, je répète, T-E-K-N-O-N, qui veut dire effectivement quelqu'un plus jeune envers qui on a une affection toute particulière. Mais de surcroît à cette notion d'un fils ou d'un enfant légitime ou spirituel, le nom « technon » veut aussi dire « élève » et « disciple ». Élève, étudiant, disciple. Élève et disciple dans le sens de celui qui apprend de quelqu'un. Alors, il est important de savoir ici que, alors que Timothée reçoit ses enseignements, il est déjà au service de Dieu. Paul l'a déjà envoyé à Éphèse. En fait, cette lettre rejoint Timothée à Éphèse, alors qu'il est assis comme pasteur principal de cette église, alors qu'il est en train de faire les réformations et les réformes que Paul a suggérées à l'église d'Éphèse, alors qu'il est en train de s'occuper de gens qui sont plus vieux que lui à l'occasion, de sa génération, mais avec des responsabilités importantes dans le corps de Christ. Et encore là, Paul s'adresse à Timothée en lui disant non seulement « mon enfant que je chéris, mon enfant envers lequel j'ai une grande affection, mais de surcroît à ça, mon élève, mon étudiant, mon disciple. » En fait, la première chose qu'on doit se rendre compte aujourd'hui et qui sera probablement une bonne chose pour le restant de notre existence, c'est que nous sommes des étudiants perpétuels. Aucun d'entre nous n'a la science infuse. Aucun d'entre nous n'a la connaissance totale de l'ensemble de ce que Dieu veut de nous et de ce que Dieu nous appelle à être. Nous sommes, tout aussi longtemps que nous serons ici-bas sur cette terre, dans ce processus d'apprentissage. La Bible nous dit que c'est simplement lorsque nous serons là-haut en présence de Dieu que toute chose nous sera révélée. Alors, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, peu importe le nombre d'années que nous comptons au compteur quant à notre vie chrétienne, quant à nos expériences avec Dieu, peu importe le nombre de mois, le nombre d'années, voire même le nombre de décennies pour certains, nous devons demeurer dans cette attitude d'élève, d'étudiant, d'apprenti, de disciple. Nous devons garder ouvert notre entendement pour recevoir l'enseignement et l'apprentissage que Dieu veut nous transmettre. Ce qui est intéressant, c'est que qui dit technon, donc étudiant, disciple, élève, doit par conséquent parler d'un autre terme qui n'est pas mentionné ici, mais qui par défaut s'appelait qui dit technon, dit aussi didaskalos. Didas, D-I-D-A-S, K-A-L-O-S, qui veut dire l'enseignant. Le maître. Si nous sommes des étudiants, c'est aussi qu'il y a un maître. Oui, Jésus est notre maître absolu. Oui, la parole de Dieu est notre source d'enseignement absolu. Mais ici, Paul ne se réfère pas à Timothée comme Timothée, le disciple et l'élève de Jésus. Paul est en train de parler de Timothée comme son élève, son étudiant, son apprenti, son disciple à lui. Et une chose importante, c'est que nous avons tous un besoin vital d'avoir des maîtres spirituels, d'avoir des maîtres dans notre cheminement spirituel. Vous savez tous combien le pasteur Fontalvo a eu un impact profond dans ma vie. Mes premières années de ministère, je les ai faites avec lui. Les premières années officielles de ministère, parce que déjà plus jeune, en étant en France, j'avais travaillé et appris avec mon père, père physique, et quand j'ai déménagé, quand je suis revenu au Canada, donc je suis revenu me mettre sous la tutelle, sous l'enseignement, sous la formation d'un père spirituel qui était le pasteur Fontalvo. Et le jour où il est décédé, et maintenant ça fait, c'était en 2011, donc ça fait maintenant 9 ans, à peu près dans ces jours-ci, on l'a célébré il y a quelques jours en fait, lorsqu'il est décédé, j'aurais pu me dire, ok, ben voilà, maintenant il est parti. Seigneur, tu l'as repris, alors c'est moi avec toi, Seigneur, tout simplement. Mais dans les heures même qui ont suivi son enterrement, le Seigneur m'a donné de façon très précise le nom de 5 hommes de Dieu à l'extérieur du réseau EAJC. Et il m'a dit à ces personnes-là, tu vas leur demander de veiller sur toi. Et à ces gens-là, peu importe la question qu'ils pourraient te poser, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit de falsifier, de toute façon, personne n'a le droit de mentir, mais tu n'as pas le droit de leur cacher la réalité et la vérité. Ils ont le droit de te poser n'importe quelle question. Donc, j'ai approché effectivement ces 5 personnes, que je ne vous nommerai pas, mais si un jour vous aviez un problème avec moi, mes collaborateurs savent qui sont ces personnes et pourraient les contacter pour me chauffer les oreilles au besoin. Mais j'ai approché ces 5 personnes en leur demandant, voici ce que Dieu m'a demandé. Dieu m'a demandé de vous approcher et de vous demander de veiller sur moi. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je fais, je vous donne un rapport. Si vous voulez le commenter, vous le commentez. Si vous voulez me donner des conseils, je dois l'accepter. Et vous avez le droit, je vous donne le droit de me poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment. Et je n'ai pas le droit de me défiler. Dieu était en train de me dire à ce moment-là que même si mon père spirituel venait d'être repris et amené dans la gloire, je ne pouvais pas rester comme un électron libre. Et chacun d'entre nous, on se doit d'avoir des aînés dans la foi qui veillent sur nous, qui ont ce droit d'intrusion. Et je dis bien intrusion parce que la façon dont Paul va œuvrer avec Timothée, il ne va pas avoir de honte ou de retenue dans ce qu'il va aborder avec Timothée, dans les recommandations qu'il va faire à Timothée. C'est important pour nous de rester étudiants, mais de toujours avoir des gens qui ont le droit et à qui on a officiellement accordé le droit de regard sur notre existence. Et il ne faut pas que ce soit des collègues similaires. J'ai des collègues similaires au sein de l'Église et on travaille dans une équipe pastorale qui est fantastique, mais ça prend aussi des gens qui ont un regard extérieur à notre niveau. Donc oui, avec mes collègues, ils ont le droit de me poser n'importe quelle question et d'intervenir dans ma marche, et quand ici je parle des collègues, je parle des responsables de l'église locale qui est la nôtre et l'ensemble des pasteurs du réseau. Mais de surcroît à ça, Dieu m'a demandé d'apprendre au pied encore d'autres personnes, donc ces 5 hommes-là. Donc, premier point, c'était la nécessité d'être un perpétuel étudiant. Deuxième point, la nécessité d'avoir de façon perpétuelle et constante un maître, des maîtres dans notre vie pour nous enseigner. Le technon ne peut pas exister sans le didaskalos. L'élève ne peut pas exister sans le maître. L'étudiant ne peut pas exister sans le professeur. Il nous dit par la suite, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Timothée est un étudiant doué. De tous les jeunes hommes et les jeunes femmes que Paul a amenés à Christ, que Paul a vu grandir dans la foi, ben, Timothée sortait du lot. Que ce soit par ses habiletés, que ce soit par les talents qu'il avait en lui, que ce soit par rapport à son sens des responsabilités, à son sens du dévouement. Mais de surcroît à cela, Paul lui disait, même s'il y a des talents en toi, même si tu as certaines facilités, même si tu as des charismes qui viennent de Dieu, donc des dons spirituels qui viennent de Dieu, rappelle-toi une chose, tu dois te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, comme troisième point, la grâce de Jésus reste et demeure la source de notre force. Nous sommes forts à cause de la grâce de Dieu. Nous prenons notre force dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dois toujours me rapprocher de Jésus. Voilà pourquoi je dois toujours courir vers Jésus. Voilà pourquoi je dois toujours me nourrir de sa parole. Voilà pourquoi je dois toujours vivre dans sa présence, parce que je sais que plus je suis rempli et environné par la présence de Jésus, plus fort je m'excuse, plus fort je suis. Donc, nous rappeler, alors que nous travaillons pour le Seigneur, alors que nous avons peut-être une certaine expérience, de nous rappeler que peu importe quels sont nos accomplissements d'hier, peu importe quel est le niveau qu'on atteint même aujourd'hui, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous pouvons prétendre, reste et demeure du domaine de la grâce de Dieu. Tu peux avoir des habiletés comme discoureur, comme conférencier, tu peux avoir une facilité à parler, mais si Jésus claque des doigts et te retire cette facilité, tu deviens muet. Tu es incapable de rester loquace. Si Dieu claque des doigts et te retire une certaine habileté que tu as, tu ne l'as tout simplement plus. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, reste et demeure par la grâce de Dieu. Et je pense qu'ici, c'est un appel que Paul a envoyé à Timothée quant à l'humilité. Quand on se rend compte que tout ce que nous sommes ne dépend pas de nous, mais dépend de Christ, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'enorgueillir ou on n'a aucune raison de s'enorgueillir. Je ne peux m'enorgueillir que de ce que je fais et de ce qui dépend de moi. Mais si ce que je suis dépend de la grâce de Dieu, alors je dois glorifier la grâce de Dieu et non pas me glorifier moi-même. Donc on reste étudiant, on a un maître, on a des enseignants, on a des gens de qui on apprend et on reste aussi dans l'humilité de savoir que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est issu et découle de la grâce de Dieu. Passons au verset 7 qui nous dit « Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Comprends ce que je dis. Ici, c'est le terme « comprendre » qu'on va étudier et le terme « dire ». Le terme « comprendre », c'est le terme « noéo ». Noéo. N-O-E-O. Qui veut dire « considérer » effectivement, qui veut dire « comprendre ». Qui veut dire réfléchir, percevoir, penser. Le terme dire, lego, L-E-G-O, veut dire affirmer une chose, enseigner, exhorter, diriger ou exprimer une croyance. Alors Paul était en train de dire, comprend, réfléchit, perçoit, continue à penser à ce que je t'ai dit, à ce que je suis en train de te dire, à ce que je suis en train de t'enseigner, de t'exhorter, ce vers quoi je te dirige, ce que j'exprime, ce que je professe comme étant un enseignement à ton égard. Qu'est-ce que Paul était en train de dire? Paul était en train de dire à Timothée, « T'es mon élève. » Mais il y a plusieurs façons de se poster ou de se positionner face à un enseignement. Et ces derniers jours, je réfléchissais moi-même à ma position par rapport aux enseignements que je reçois, à ma position par rapport aux prédications que j'entends de l'ensemble de mes collègues, d'autres ouvriers que j'écoute. Quelle est ma position? Et comme je disais hier matin en début de prédication, parfois notre attitude face à un enseignement n'est pas ce qu'elle devrait être, notre attitude. Parfois, on vient se présenter devant un enseignement et ce qu'on veut voir, c'est simplement, ben, qu'est-ce qu'il y aura de croustillant? Qu'est-ce qu'il y aura de anormal? Qu'est-ce qu'il y aura de spectaculaire dans les choses qui nous seront données ici? Et il y a des gens qui ne cherchent dans l'enseignement, qui ne cherchent dans l'exposition de la parole, que ce qui pourrait être croustillant, étonnant, problématique, qui pourrait rendre dubitatif un peu par rapport à ce qui est transmis. Ils veulent le sujet de discorde, le sujet de polémique, le sujet de débat. Ce faisant, la seule chose qu'on cherche, si on a cette attitude, c'est avoir quelque chose qui nous chatouille l'oreille. Et c'est ce que Paul va dire aussi à Timothée, que dans les derniers temps, les gens vont chercher ce qui chatouille leur oreille. Et par conséquent, ils vont se donner une foule de docteurs, ce qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce n'est pas simplement qu'ils vont donner la doctrine qu'ils ont envie d'entendre, mais c'est qu'ils vont aussi tout simplement venir assouvir leur désir d'avoir un chatouillis auditif, d'avoir quelque chose qui les chatouille à l'oreille. Ce que nous faisons actuellement, bien que ça puisse avoir un caractère qui est agréable, bien que ça puisse avoir un caractère qui vient parfois secouer et mettre en porte-à-faux nos croyances initiales, nous sommes d'abord à étudier la parole de Dieu pour apprendre. Un étudiant ne vient pas se faire chatouiller l'oreille, un étudiant vient apprendre. Un élève ne vient pas se faire stimuler l'intérieur de l'oreille, un élève vient recevoir un enseignement et cet enseignement pour l'appliquer par la suite. Quand j'ai appris à lire, je me suis mis à lire. Quand on m'a montré ce qu'étaient les différentes lettres, les différentes sonorités et comment on associait les lettres avec les autres pour en faire un texte, c'était afin que je sois capable aujourd'hui de lire. Quand on m'a montré la valeur de chacun des chiffres et qu'on m'a montré ce qu'était une addition, ce qu'était une soustraction, ce qu'était une multiplication, ce qu'était une division, même si je n'ai jamais été un génie en maths, mais ça m'a appris à compter. Donc, on est étudiant pour apprendre. On n'est pas étudiant pour être chatouillé dans l'oreille. Et il y a des notions qu'on apprend à l'école qui sont embêtantes. Il y a des cours qu'on aime, il y a des cours qu'on aime moins, mais l'ensemble de ces formations que nous suivons font de nous quelqu'un qui est formé. Alors que si on étudie simplement ce qui nous plaît et ce qui nous chatouille à l'oreille, nous aurons une éducation qui est bancale, qui est déficitaire dans certaines facettes. Donc l'attitude que nous devons avoir face à l'enseignement, l'attitude que nous devons avoir face à l'étude de la parole de Dieu, c'est l'attitude d'un bon étudiant, d'un bon élève qui vient à l'école pour apprendre. Paul va lui dire, je veux non seulement que tu écoutes, mais je veux que tu réfléchisses, je veux que tu apprennes. Je veux pas que ça soit simplement des sons qui rentrent dans ton oreille, mais je veux que tu sois capable d'assimiler ces sons, d'assimiler ces notions que je te transmets, afin de les étudier et afin de voir comment tu peux vivre en rapport avec ces enseignements. Très souvent, nous ne sommes que des étudiants, plutôt des auditeurs de la parole de Dieu, voire même, comme dirait Jacques, des auditeurs oublieux. On entend, ça nous chatouille, on a trouvé ça agréable, on nous demande le lendemain qu'est-ce que le pasteur a dit hier et on n'est pas capable de sortir la pensée maîtresse ou l'orientation vers laquelle devait nous faire tendre l'enseignement qu'on a reçu. Alors je prie que mon attitude et ton attitude cette semaine face à la parole de Dieu que nous étudions, que nous allons méditer tout au long de cette semaine, ce ne soit pas simplement je viens de passer une demi-heure dans la présence de la parole de Dieu, mais que ce soit vraiment l'occasion pour toi de recevoir un dépôt que tu assimiles, que tu te mets à ruminer, que tu te mets à réfléchir et qui dans ta vie apporte des changements, apporte un meilleur travail, apporte une meilleure attitude, apporte un meilleur positionnement par rapport à Dieu. Donc que nous puissions écouter, réfléchir et apprendre de ce que nous partageons actuellement. Et ça, c'est peu importe qui est l'enseignant. Que ce soit moi ce matin, que ce soit le pasteur André ce soir, que ce soit un autre prédicateur qui viendrait, que nous ayons cette attitude. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, c'est pour apprendre, pas juste pour écouter. Et Paul va dire, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur, le maître, le patron, ton propriétaire, te donnera l'intelligence, te donnera le synesis, S-Y-N-E-S-I-S, intelligence, S-Y-N-E-S-I-S. Et intelligence veut dire connaissance, veut dire assimilation de notions, mais parfois dans le grec, tout comme dans l'hébreu, certains mots ont une image qui vient avec, peut-être pour qu'on saisisse certaines facettes encore plus pertinente. Et dans le cas de intelligence, le terme veut dire aussi une course conjointe. On parle de synesis comme de synergie. Donc, une chose qui va en rapport, en cohésion avec une autre. Une chose qui marche conjointement avec une autre. Ici, lorsqu'on parle de synesis, on parlait de l'image, effectivement, d'une course conjointe, d'une course en duo, mais aussi de marcher deux à deux. Donc, de marcher à deux. Et là, on dit ça pourquoi? Ici, on nous dit, le Seigneur te donnera l'intelligence, te donnera de marcher à deux, de marcher conjointement. Marcher conjointement avec qui? Mais marcher conjointement avec Dieu. Tout ce que nous étudions, toute l'intelligence que le Seigneur nous donne pour comprendre sa parole doit nous amener à marcher avec lui, marcher de plus en plus près de lui, marcher côte à côte avec lui, mais marcher aussi dans la même direction que lui, marcher aussi au même rythme que lui, ne pas être en retard dans la volonté de Dieu, ni en avance sur la volonté de Dieu, ne pas être en écart quelconque de la volonté de Dieu, ne pas être éloigné de notre Seigneur. L'étude de la parole de Dieu nous donne l'intelligence pour marcher, pour faire notre course conjointement à Dieu, pour faire notre marche main dans la main avec le Seigneur. Alors je prie qu'aujourd'hui et je prie que cette semaine, tu puisses étudier la parole de Dieu, recevoir l'enseignement, y réfléchir et apprendre de cet enseignement afin de marcher encore un peu plus près de notre Seigneur. Et vous allez voir, cette semaine, ça va être une semaine intéressante. Il y a plusieurs choses qu'on va aborder et vous allez vous dire, ah mais comment ça se fait que je suis passé à travers ce texte-là et je n'ai pas vu la nuance. Ça va être intéressant. En tout cas, moi, ça s'est passé pour moi et croyez-moi, je suis emballé par rapport à ce qu'on va partager cette semaine. Alors, laissez-moi prier pour ceux qui doivent partir et après ça, je vous fais une petite annonce concernant demain matin. Seigneur, merci encore pour ta parole. Nous la recevons comme une parole qui nous change, qui nous transforme, mais aussi, Seigneur, comme un investissement que tu fais dans nos vies afin, Seigneur, de croître et de marcher dans ta volonté, de marcher avec intelligence, conjointement à toi, de marcher main dans la main avec toi, de courir dans cette course et dans cette carrière que tu ouvres devant nous conjointement avec toi. Alors je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne soyons pas strictement même des auditeurs, mais que nous soyons, Seigneur, des élèves, des étudiants de ta parole, qui la reçoivent, qui l'assimilent, qui la méditent, qui y réfléchissent et qui l'appliquent de façon fonctionnelle dans leur vie. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère aujourd'hui. Que ta grâce soit avec eux, soit avec nous tout au long de cette journée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, simplement pour vous dire, demain, je risque d'être pris. J'ai un rendez-vous en deux phases à l'hôpital, simplement un examen de routine que je dois faire. Mais je dois y être pour 7h30. On me fait une injection et après ça, on me renvoie pour 2 ou 3 heures, le temps que l'injection fasse son effet, colore les différentes parties de mon corps à l'intérieur, bien sûr. Et après ça, je retourne pour faire certaines imageries. Je le fais à toutes les 1 ou 2 fois par année. J'ai ce genre de test ou un de ces tests-là. Donc, c'est tout simplement quelque chose de banal, mais ça risquerait d'influencer sur l'horaire de par la grâce de Dieu, j'espère être en mesure de faire pendant cet intervalle entre les 2 sessions d'hôpital, être capable de revenir à la maison pour faire l'enseignement en question. Sinon, on trouvera un moyen. Je vous laisserai une note, peu importe, sur Facebook pour vous dire si je ne suis pas en mesure. Mais je prie d'être là à l'heure, que ce soit dans la voiture, avec un autre moyen que celui qu'on a à la maison, ou que ce soit ici. Depuis le salon pour vous parler demain. Donc, regardez ce qui serait affiché sur Facebook. Si j'ai un pépin, j'affiche de quoi. Sinon, je compte être là à mon rendez-vous à l'hôpital, oui, mais après ça, avec mon rendez-vous avec vous. Parce que, honnêtement, la parole qu'on a donnée cette semaine me réjouit et bouillonne en moi. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc, rendez-vous demain. Branchez-vous, vous allez voir si je suis là. Petite annonce aussi ce soir, rendez-vous pour l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Encore là, la même pensée que ce matin, ce n'est pas pour avoir des choses croustillantes, mais c'est pour apprendre de façon correcte ce qui est écrit dans le livre et voir comment il peut être appliqué et quelle est son emphase pour nous aujourd'hui. Il y a effectivement plusieurs courants de pensée par rapport à l'Apocalypse sur différents points qui y sont mentionnés. On vous présente ici à travers l'enseignement du pasteur André, je pense, quelque chose qui est de base, mais quelque chose d'important aussi pour ne pas se perdre dans des conjonctures et dans des débats sans fin concernant l'Apocalypse. On veut simplement que vous ayez une bonne base et après ça, que vous étudiez, que vous appreniez et que vous mettiez les choses en pratique. Donc ce soir avec le pasteur André, c'était 19h, de 19h à 20h. Donc tant sur Facebook, pour certains, vous savez aussi sur Zoom, ceux qui ont besoin de savoir comment se brancher. Je pense qu'il y a probablement les indications sur la page web de l'Église, sinon vous écrivez à secrétariat EAJC en seul mot, à commercial@gmail.com et on vous enverra le lien vers la page Zoom pour ceux qui veulent le voir. Mais la page Zoom, en fait, c'est exactement ce que vous verriez au niveau de la page Facebook. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Allez dans la paix du Seigneur, continuez à méditer, à réfléchir sur la parole de Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole-là puisse vous fortifier, vous guider en cette journée. Sur ce, que Dieu vous bénisse donc, et puis on se reparle demain. Et puis moi, j'assiste à la formation du pasteur André via mon écran aussi ce soir. Alors soyons tous bénis, que Dieu soit avec vous.